Retour sur la victoire des Raptors hier par ce lancer qui est devenu un tir spectaculaire. Il y a eu des finishes plus spectaculaires que ça, des lancers qui viennent de loin, mais c'est la longue attente, interminable attente des quatre bons sur le cerceau qui a rendu ça très, très spécial et les circonstances, parce que sinon, ça s'en allait en prolongation. Accueillons tout de suite Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Mais j'allais dire que RDS, en français, je ne sais pas les codes d'écoute pour TSN hier, Sportsnet et compagnie. C'était, je ne sais même plus si c'était TSN ou Sportsnet, mais d'après moi, ça devait être le match le plus regardé dans l'histoire du basket au Canada. Je pense qu'on a atteint pas loin de 250 000 à RDS hier. C'est considérable quand même.
C'est étonnant, oui, pour du basket au Québec en français. C'est sans doute du jamais vu, mais ça méritait ça. On a beaucoup parlé d'un scénario hollywoodien dans les dernières heures pour expliquer ce match-là, mais je suis même pas sûr que ça rend justice parce que, tu sais, Mario, disons que toi, t'es réalisateur de film, puis moi, je suis ton assistant réalisateur. Puis là, on décide qu'on fait un film sur le basket. Puis là, comment ça va se terminer, la scène finale? Le joueur vedette va venir faire le panier victorieux, puis toi, en tant que réalisateur, tu dis, hey, Philippe, regarde ce qu'on va faire, là. Le ballon, à la fin, là, il va frapper le cerceau une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis là, il va rentrer. Là, je vais dire, Mario, c'est un peu exagéré. C'est trois fois de trop, là. Une fois, puis fais-le rentrer dans le ballon, puis dans le panier, puis le film va être parfait.
Oui, exactement.
Alors, c'était magique de voir ça.
C'était vraiment magique, et veux pas, c'est des scènes, tout sport confondu, il y a des scènes mémorables. J'ai fait allusion, je pense, déjà au moins une reprise depuis le début de l'émission, au fameux coup d'approche de Tiger Woods au Masters qui finalement, après une petite pause avant d'entrer dans la coupe avec le beau logo de Nike, entre finalement. Ouais. Ça, c'est une séquence qui entre dans l'historique du basket au Canada. Et puis même, je veux dire, c'est pas juste au Canada là, qu'on a regardé ce coup-là. Tout le monde l'a commandé aux États-Unis, l'a commenté.
Oui, exactement. C'est le haut fait du week-end sportif. Aucun doute là-dessus. Ça a été absolument extraordinaire. Puis je regarde l'intérêt que ça génère au Québec. Moi, je suis abasourdi. Je regarde comment tu as ouvert ton émission ce soir. Là, c'est un signe, ça. Tu sais, on fait une entrevue avec un gars sur place qui assistait à la rencontre, un journaliste de Toronto. C'était très intéressant d'ailleurs. Puis je regarde, je vais te donner juste une anecdote à la maison chez moi. C'est mon garçon qui a 15 ans. C'est lui qui a ouvert la télé à la demi puis qui a dit, hey, on va regarder les deux dernières demi. Alors, il y avait cet intérêt là pour
les jeunes, regarder le match. Tu dirais-tu que les jeunes sont particulièrement à l'affût?
Absolument aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Et c'est drôle, je regardais ce scénario de film pour la fin du match, puis aujourd'hui, tout le retentissement que cette fin a suscité. Et j'ai pensé à Kevin Gilmore et Michael Fortier. Souviens-toi, Kevin Gilmore, avant de joindre l'Impact, avait son entreprise de consultant, de consultation, et il a accompli un mandat avec Michael Fortier pour voir est-ce que analyser les chances d'implanter une équipe de la NBA à Montréal. Tu te souviens de la conférence de presse?
Bien sûr, je me souviens dans l'entrevue de quand Kevin Gilmore accepte la job avec l'Impact, il dit que c'est pas un dossier mort non plus. Il l'a réitéré. Je te laisse pas.
Exactement. Et moi, j'ai toujours eu de gros doutes là-dessus sur l'intérêt que pourrait susciter une équipe de basket à Montréal. Le hockey prend beaucoup de place. Est-ce qu'il y a un public suffisant pour un sport comme le basket? Je pense pas que ça pourrait être un succès demain matin, mais je me demande si ce sport-là est pas en train de réussir une percée dans le marché parce que grâce aux Raptors qui ont réussi à susciter l'imagination de tout le monde. Bon, ça sera sans doute pas de même à chaque année, puis on verra ce qui arrivera de cette concession-là, mais là, les Raptors sont vraiment devenus une équipe qui soulève l'intérêt de tout le monde au Canada, et c'est un phénomène qui est nouveau. Ils sont là depuis plusieurs années, les Raptors, mais il n'en reste pas moins qu'ils n'ont jamais généré cet intérêt-là ailleurs que dans le marché de Toronto auparavant. Alors, pour moi, c'est un événement significatif. Et oui, peut-être que c'est un sport qui va attirer beaucoup les jeunes. Et là, tu sais, c'est sûr que je changerai pas tout ce que je pense sur ce dossier-là. Je pense que c'est très compliqué qu'une équipe de basket, ça peut coûter jusqu'à 2 milliards de dollars et tout. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'amphithéâtre est déjà là,
déjà
le Centre Bell. Tu sais, c'est un gros problème. Quand tu regardes regarde nos équipes sportives.
Moi, je suis plus confiant que ça sur l'avenir potentiel d'une équipe de basketball, mais je suis pas sûr. Là, c'est pas mon argent. Je parle avec l'argent des autres. C'est plus facile. Puis, permets-moi un parallèle. Excuse-moi de t'avoir interrompu,
non,
mais tu sais, on regarde. Tu sais, ça fait quand même 24-25 ans qu'ils sont en opération, les Raptors de Toronto. Il y en a eu de fortes vagues auparavant. Les années Vince Carter, c'était quand même sexy. C'était intéressant à regarder. Là. Il y a eu d'autres bons athlètes de Rosen, Laurie qui est encore là. Mais on dirait que là, l'arrivée d'une vedette de la trempe de Leonard, avec 24 années d'accumulation de connaissances de basket à Toronto, c'est sûr que ça fait des petits... Puis tu sais, des fois, quand on parle de l'impact qui n'est pas rendu là où on voudrait, en MLS, ça fait pas 20 ans qu'ils sont là, l'impact de Montréal.
Non, non, non.
Alors qu'on parle de l'avenir puis du stade, des infrastructures avec la visite de Garber aujourd'hui. Je sais pas si c'est un parallèle boiteux, mais en tout cas...
Ben oui, ben ce que tu dis suscite beaucoup de réactions à moi. D'abord, je te dirais ceci, c'est que la différence, je pense, avec le passé au niveau de l'intérêt que peut susciter les Raptors, c'est qu'aujourd'hui, dans la NBA, et ça, c'est en raison des Raptors, en raison de la présence des Raptors, c'est que tu as beaucoup de joueurs canadiens de premier plan dans la NBA. Il y a d'excellents joueurs. Et peut-être que le premier choix au repêchage là, de la NBA dans quelques semaines, ce sera un Canadien, R.J. Barrett, qui joue à Duke. Alors là, résultat, c'est qu'au Canada, on devrait avoir une équipe nationale pas mal forte lors des Jeux olympiques. Si tous les joueurs acceptent de porter l'uniforme canadien, le Canada pourrait faire des surprises. Alors, si le Canada devient une force dans le basket international, dans des grands rendez-vous comme les Jeux olympiques, ça, tout de suite, en partant, ça va aider encore le retentissement du soccer. Mm-hmm. Alors, pour moi, ça, c'est un phénomène important. Mais comment se fait-il que tous ces joueurs-là se sont développés? C'est clairement dû à la présence des Raptors. Ça crée un intérêt. Oui. D'ailleurs, la plupart des joueurs de NBA qui viennent du Canada viennent de Toronto. Alors, il y a eu cet impact-là. Et l'autre, pour juste revenir à ce que je te disais tantôt, il y a déjà le stade à Montréal avec le Centre Bell. Regarde combien... C'est tellement important, le stade. C'est tellement une partie importante de l'équation. Regarde aujourd'hui, là je fais le rapprochement avec ce que tu viens de dire à propos de Don Garber, puis Kevin Gilmore, puis Joey Saputo aujourd'hui. Regarde le problème là, avec l'impact. C'est le stade. Hein? Ça, là, c'est clair. Le stade, la pelouse n'est pas chauffée. Il fait froid. On ne peut pas commencer en mars. Il est plus ou moins... Oui, il est bien situé, mais il n'y a rien à côté. Je pense pas qu'on va bâtir un nouveau quartier en 10 ans non plus là, autour du stade Saputo. Alors, ça m'apparaît un peu bizarre. Bizarre de dire ça, mais en fait, c'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Regarde le dossier des expos, problème majeur, le stade. Regarde les Alouettes, problème majeur, le stade aussi. Il est magnifiquement bien situé, mais là, avant, il était trop petit. Là, il est rendu trop grand. Est-ce qu'il correspond vraiment aux standards d'aujourd'hui? Toutes sortes de questions à ce niveau-là aussi. Alors, quand ton problème de stade est déjà réglé, ou d'amphithéâtre, il y a une partie intéressante du chemin qui est faite. Cela dit, je ne dis pas qu'il va y avoir une équipe de basket demain matin à Montréal, loin de là, mais le projet est peut-être un peu moins, je dirais pas farfelu, puis c'est pas le bon mot, mais peut-être un peu plus sérieux que ce qu'on a déjà pu penser.
Et il y a quelques années, peu après qu'il ait quitté la présidence du Canadien, j'avais demandé à Pierre Boivin, selon lui, s'il y avait de la place pour une autre équipe professionnelle majeure à Montréal. Moi, je pensais qu'elle aimerait répondre le basket, considérant que le building t'a déjà bâti. Et il m'avait répondu le baseball. Et c'est là que j'ai commencé à penser, sachant qu'il allait travailler avec Larry et Stephen Bradford, que je me suis dit, un jour, ça va rebondir, cette histoire-là de baseball. Puis
est-ce que la réponse va être la même, Mario, dans 10 ans ou dans 15 ans? T'sais, les générations changent, les intérêts changent.
Dans quoi tu mettrais tes billes, Philippe? C'est ça qu'il parle d'habitude. Oh. Dans quoi qu'on mettrait nos billes si on pouvait investir une pièce d'une équipe de baseball ou d'une équipe de basket?
À l'heure actuelle, il faut y aller avec le baseball. Il y a un commissaire qui aimerait ça avoir une équipe de baseball à Montréal. Il y a des investisseurs qui, semble-t-il, sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Il y a une couple d'équipes en difficulté, puis on en parle dans le milieu du baseball. Alors, c'est sûr que c'est un dossier beaucoup plus avancé. Il n'y a personne, là, à part ceux qui sont peut-être intéressés à amener une équipe à Montréal qui en parle réellement. C'est pas un sujet de conversation dans la NBA, comme c'est un sujet de conversation dans le baseball majeur, le retour ou l'arrivée de Montréal dans le circuit. Alors, pour l'instant, ce sont les expos, mais tu sais, ça évolue tellement vite. Reportons-nous il y a 10 ans en arrière, ou disons 8 ans en arrière, on aurait probablement dit l'équipe qui avait le plus de chances de revenir, c'était les Nordiques. Les Nordiques ne sont pas revenus. Aujourd'hui, on dit l'équipe qui a probablement le plus de chances de revenir, sont les expos. Mais tu sais, si les expos ne sont pas revenus dans 5 ans, ça va être quoi la réponse à cette question-là dans 5 ans? Est-ce que ça va être les Nordiques, les Expos ou le basket? Peut-être que le basket va faire partie de l'équation à ce moment-là.
C'est pas impossible de penser ça. En tout cas, c'est une mise en perspective fort intéressante. Et Philippe, presque sur la conclusion, pas tout à fait, de notre conversation, les minutes que nous avons consacrées au basket depuis le début de l'émission en pleine séries éliminatoires du hockey sont-elles un indice de quelque chose d'anormal ou du fait que les séries, le début de la troisième ronde est peut-être un peu plus tranquille?
Peut-être une combinaison des deux. C'est sûr que si le Canadien est encore encore en série, on parlera
ça
moins de
un
basket.
Peu différent.
Malgré l'exploit des Raptors, là, on se comptera pas d'histoire. Mm-hmm. Mais il en reste pas moins que les Raptors ont réussi à s'insérer. C'est d'abord et avant tout grâce à eux, à cette fin de match spectaculaire. Mais c'est vrai aussi, j'ai l'impression, Mario, qu'après la première ronde tellement spectaculaire, 8 séries, des surprises, du gros hockey, une deuxième ronde pas mal aussi.
C'est dur à battre.
On sent, oui, c'est ça. Puis là, on sent un certain insufflement de la part de la Caroline. Si cette série-là se termine en 4, ce qui n'est pas impossible, là, peut-être qu'il y aura 5 matchs, mais en tout cas, et peut-être que les Hurricanes reviendront, mais là, c'est clair que les Bruins ont semblé dans le siège du conducteur. Ça va être une série, au bout du compte, un peu décevante. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu 2 gros matchs. Là, c'était
non,
pas serré
non.
Jusqu'à la fin. Puis on verra ce soir qu'est-ce que ça va donner. Mais encore une fois, si San Jose prend les devants 2-0, je trouve que les Blues commencent peut-être aussi à manquer un peu d'essence. Alors peut-être qu'on aura des demi-finales moins intéressantes. Chose certaine, là, ça va prendre quelque chose. Ça va prendre un rebond immédiat des Hurricanes dans le prochain match. Puis Saint-Louis, s'ils perdent les deux à San Jose, oui, ça va être dur pour la suite.
Il y a quelque chose que tu peux pas remplacer, même si l'enjeu grimpe, c'est que en première ronde, tu as 16 équipes pour assouvir ton besoin d'émotion et de divertissement. En deuxième ronde, il en reste 8. Si un match ne livre pas, ben il y en a un autre qui commence dans une période et demie. Là, il en reste 4 et 2 séries. Et plus ça va... C'est pour ça que des fois, c'est pas toujours plus intéressant, plus ça va, selon l'allure des séries.
Moi, j'ai toujours dit que la plus belle ronde éliminatoire dans le hockey, celle à laquelle j'ai le plus hâte à chaque année, c'est clairement la première ronde. Parce que quand t'aimes
c'est
le hockey,
festival.
T'as un paquet de matchs tous les soirs. C'est le fun, il y a des surprises, il y a toutes sortes d'histoires, c'est absolument magique. C'est toujours un beau moment. Et ça, que le Canadien soit là ou pas. Quand le Canadien est pas là, à partir de la deuxième, troisième ronde, des fois, on le voit là, ça s'essouffle un peu, ce qui veut pas dire que ça rebondira pas dans cette demi-finale de la Coupe Stanley. Dans cette demi-finale-là, si jamais les Hurricanes reviennent.
Tout
et puis peut-être qu'on aura une finale extraordinaire aussi. Alors, c'est loin d'être joué, mais il en reste pas moins que là, au moment où on se parle.
Oui.
Aujourd'hui, lundi, petit essoufflement.
Et on reste à l'affût quand même. Philippe, merci beaucoup. On a toujours un sujet en banque, Tokyo 2020, mais je suis content qu'on ait eu la discussion.
On a le temps, il nous reste encore un an pour en parler.
Ouais, c'est une bonne façon de présenter ça. Bonne soirée, mon ami.
Salut.
Bye-bye. Et dans quelques instants, on va retrouver l'entraîneur-chef, directeur général des 67 d'Ottawa, l'entraîneur de l'année dans la Ligue junior de l'Ontario. Lui qui vient de voir son équipe perdre contre l'équipe de Nick Suzuki, le Storm de Guelph.